C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzy. Auteur, Isidore Ducasse, dit le comte de Lautréamont, 1846-1870. Poète, français, de milieu bourgeois, sexualité inconnue. Œuvre, Les Chants de Maldoror. Deux éditions du vivant de l'auteur, 1869 puis 1874, mais n'ayant jamais paru en librairie. Personnage, Maldoror. Ferdinand Foch, le futur maréchal Foch, et Isidore Ducasse, le futur comte de Lautréamont, se trouvaient en même temps au lycée de Tarbes, où j'ai aussi étudié. Tarbes, pour une petite ville, a beaucoup d'enfants fameux et d'ailleurs quantité de poètes, comme encore Théophile Gautier ou Jules Laforgue et Lautréamont, tous deux nés à Montevideo, d'une famille tarbaise. Le lycée, aujourd'hui lycée Théophile Gautier, s'appelait lycée impérial. À la fin du 19e siècle, quand Foch s'y trouvait en classe de 6e, Ducasse était en 4e. Il y aurait de quoi en faire une scène de film à la Guitry. Élève Foch, au tableau, votre copie est médiocre. L'élève Ducasse reçoit le premier accès d'excellence. Et le cancre, mesdames et messieurs, devait devenir maréchal de France, tandis que le bon élève périrait dans l'oubli avant de connaître la renaissance posthume des génies. À ses débuts au lycée, le poète était bon élève et le militaire médiocre. C'est souvent comme ça et ça n'est la preuve de rien. Un lycée public est une réduction de la société, avec ses mélanges qui ne se mélangent pas, ses apparents paradoxes, lesquels ne sont jugés tels que par esprit rétrospectif. Et puis, ce que sont les villes, n'est-ce pas? Elles ne sont reconnaissantes qu'envers ce qui se voit. Enfant, je suis passé des milliers de fois près d'une statue équestre de Foch. Ducasse n'a eu que plus tard une toute petite rue dans un quartier excentré. Eh, il avait refusé l'oppression qu'on subit dans un des endroits où on l'a subi le plus, le lycée, alors que si on l'accepte, on peut ensuite aller à l'armée. Comme l'écrivait quelques années plus tard le comte Kessler dans ses cahiers, je le cite, « Toute éducation est une entreprise d'oppression, de même que le pouvoir exercé par un État ne sert qu'à sublimer et raffiner les formes brutes de la violence. L'individu ne subit pas moins un viol, il est détourné de sa voie naturelle, il est dénaturé, tout aussi efficacement que par des moyens de violence plus grossiers, moins barbares, et on ne peut pas affirmer qu'il en souffre moins. » Quand on a souffert très jeune de l'esprit de convention, on peut avoir des vengeances énormes. On imagine des créatures féroces, mythologiques, impitoyables. Elles porteront le nom de Maldoror. Les Chants de Maldoror, c'est pour moi le livre qu'aurait écrit l'élève Turles, le personnage des désarrois de l'élève Turles de Mousil, s'il s'était révolté. Qui est Maldoror? Pour en parler, je reçois Jean-Luc Steinmetz qui a dirigé la publication des œuvres complètes de Lautréamont dans la bibliothèque de la Pléiade et est l'éditeur des Chants de Maldoror dans la collection GF chez Flammarion. Jean-Luc Steinmetz, à quoi ressemble physiquement Maldoror?
Eh bien justement, Maldoror est infigurable parce que c'est un individu polymorphique qui se transforme, qui est en but à différentes métamorphoses, et ces métamorphoses prouvent bien que c'est un être fictionnel. Et en même temps, on peut déterminer certains éléments qui reviennent et qui caractérisent son aspect, sa personnalité, qui bien sûr est à la limite de l'humain et du divin, puisque lui-même prend place entre Dieu, qui est le principal ennemi, et l'homme, qui est un ennemi moindre. Donc c'est un personnage tendance satanique, et qui est inspiré d'ailleurs par toute une longue lignée de personnages romantiques, où Satan a son importance, notamment le Satan de Milton.
D'où vient son nom? On a spéculé sur le nom d'une ville ou sur Malédolor, la mauvaise douleur, à moins que ça ne soit Maldoré après tout. Il y a quelque chose qui va mal en tout cas dans son nom.
Il y a un rapport évident avec le mal et avec l'aurore et avec l'or. C'est un nom qui renvoie peut-être à ses origines quand il est né en Uruguay. Et puis alors on peut imaginer également le nom de Mar de l'or. Mar en espagnol, la mer, et dolor, la douleur, la souffrance. Ce simple signifiant impose déjà un personnage. C'est un personnage par son signifiant.
Lautréamont l'a choisi tout de suite. Est-ce qu'on sait ça ou est-ce que le nom a évolué au fur et à mesure de...
Le personnage est le nom est fixé tout de suite.
Il faut dire que l'édition complète sur laquelle nous nous fondrons est composée de 6 chants, et ça n'est pas négligeable, ces chants sont écrits en prose, un peu, vous le mentionniez tout à l'heure, comme Chateaubriand avait traduit Milton en prose.
Exactement.
Maldoror ne parle pas en alexandrin rimé.
Non, le modèle, je crois, c'est quand même celui de l'épopée, n'est-ce pas ? Avec un héros principal, et cela suppose d'une part qu'il y ait deux mondes en rivalité, un monde divin, un monde supérieur, et puis celui des hommes. Et des phénomènes ayant trait au merveilleux, et des épisodes agonistiques, enfin de lutte profonde. Le personnage lui-même est intermédiaire. On ne peut pas définir s'il est un homme. Simplement, le titre de chant de Maldoror vaut autant comme complément de nom objectif que subjectif. C'est-à-dire, celui qui parle peut être assimilé à Maldoror, et en même temps, celui qui parle peut être celui qui parle de Maldoror. Donc la confusion se fait constamment, et tout du long, eh bien, nous avons un personnage ambigu, équivoque, et on ne sait pas très bien ce que vaut le jeu là-dedans, ce que vaut la première personne.
C'est un homme qui ne sait pas pleurer, c'est écrit, celui qui ne sait pas pleurer, et il ne sait pas davantage rire, c'est essentiel probablement pour le Triarmon, car ça nous est annoncé dès le premier chant. Donc il y a une espèce de, disons pour le moins qu'il est flegmatique.
Oui, flegmatique, ce n'est pas un mot qui apparaît sous la plume de le Triarmon, ni le mot de mélancolique qui aurait pu apparaître. C'est un personnage essentiellement ironique et qui ne rit pas parce que le rire est le propre de l'homme et qu'il prend ses distances vis-à-vis de ça. Donc il s'est creusé, il a incisé son visage pour faire une espèce de rire faux et perpétuel.
Il nous est dit très vite, au début des chants de Maldoror, que ce soit lui qui parle ou quelqu'un qui le décrive, comme vous le disiez, qu'il a été bon un bref moment de sa vie, mais que ça n'intéressera pas le narrateur ou Maldoror, puisqu'on va décrire sa carrière dans la méchanceté. Et là, le mot « méchant » est employé.
Oui, ben, on peut dire que tout du long, la façon dont les chants sont conçus, c'est essentiellement des épisodes où on voit en action, sa méchanceté. Mais si on lit d'un peu plus près, on s'aperçoit qu'il y a quelques moments de compassion.
Je voudrais que cette question de la méchanceté est vraiment, à mon avis, importante. D'abord, d'après vous, est-il plutôt méchant ou plutôt cruel ? Car il y a le fameux passage où il dit à propos d'un enfant, « Oh, comme il est doux d'arracher brutalement de son lit et de faire semblant de passer suavement la main sur son front, puis tout à coup, au moment où il s'y attend le moins, d'enfoncer ses ongles dans sa poitrine molle. »
Oui, apparemment, il est du côté du mal. Il a quelque chose contre ce dieu qui est plutôt un dieu gnostique, n'est-ce pas ? Qui est un dieu qui veut le mal des hommes, dans une certaine mesure.
Mais est-ce qu'il n'y a pas, dans Maldoror, aussi une posture de la cruauté ? Car il est assez baudelairien pour moi dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il y a un sens du sarcasme dont on peut penser que l'ironie s'applique aussi à sa cruauté et que donc il n'est peut-être plus dandy et sarcastique que réellement cruel.
Dandy, ça ce serait ça, on ne peut pas tout à fait savoir ce qu'il était, ce qui reviendrait à le définir tout à l'heure. Parce que quand vous avez posé la question concernant son aspect, il y a beaucoup d'éléments qui reviennent sur les 6 chants et qui permettraient de définir cet aspect, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, c'est toujours l'homme au manteau, c'est un homme qui est accompagné d'un bulldog, c'est un homme qui a toujours un canif à plusieurs lames sur lui, etc., etc., n'est-ce pas ? C'est-à-dire, il y a une idée du personnage de Maldoror, mais pas tellement de son visage. Vous voyez, par exemple, on parle aussi bien du scalp, sa tête scalpée, que l'on va pouvoir dire à un moment qu'il a les cheveux noirs. Et par ailleurs, il y a des tendances homosexuelles qui sont très intéressantes à remarquer et qui déterminent l'ensemble des chants.
On va en parler. Oui. Est-ce que vous diriez que sa méchanceté le distingue tellement des autres hommes ? On dirait qu'il est presque méchant par dépit. Il ne pardonne pas à Dieu, disons pour aller vite, le scandale du mal sur la terre, et que sa méchanceté est une forme de protestation.
Ah ben, il y a sûrement une forme de révolte, là. Mais l'ironie, la parodie, des éléments de cet ordre sont toujours là. Et à la limite, ils peuvent nous empêcher de lire. C'est-à-dire que je crois que le premier niveau a son importance aussi, et on a eu tendance à l'oublier au fur et à mesure que sont intervenues des lectures théoriciennes concernant la formation de l'écriture, etc.
Pour ceux qui ne l'auraient pas lu, il nous faut dire, là nous sommes un peu dans les nuages en quelque sorte, que le livre se passe à Paris et que Maldoror vit à Paris au moment probable où le livre a été écrit. C'est un Paris moderne, il est question des magasins de la rue Vivienne, des becs de gaz, de la lumière électrique.
Oui, alors ce qui est sûr c'est qu'il y a une première partie jusqu'au chant 6 qui est plutôt de l'ordre de l'épopée, hein, mais avec beaucoup de rapports avec le monde contemporain. Et puis, dans le chant 6, qu'admirait beaucoup Gide pour cette raison, nous sommes dans l'ordre du roman, ou du petit roman, et à ce moment-là, c'est véritablement le monde de Baudelaire, du Spleen de Paris, qui est là. Mais c'est également le monde d'Isidore Ducasse, hein. Je dis Isidore Ducasse parce que c'est encore une question de nom, là. C'est le monde contemporain avec une scène qui nous mène dans différents endroits de Paris, et notamment, nous en parlerons tout à l'heure, de la place Vendôme,
oui,
à la coupole du Panthéon.
Nous en parlerons. Il y a une chose très frappante dans Maldoror, ou celui qui en parle, c'est qu'il a un génie prodigieux de la métaphore, pour commencer, et que d'autre part, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup la comparaison animalière. Et ça donne par moments l'impression que les chants de Maldoror, c'est une espèce de Jérôme Bosch à Nancre.
Oui, c'est une belle formule, là. Dans la mesure où nous sommes, dans un premier temps, dans le monde de l'épopée, l'univers entier est concerné, n'est-ce pas ? Aussi bien les astres que l'océan, que la Terre, avec différentes créatures. Mais cela suppose, de sa part, une connaissance particulière du monde animal, oui, oui, qui intervient là, sous son aspect d'ailleurs le plus déplaisant, n'est-ce pas, sous son aspect le plus terrible, par exemple le poulpe, qui renvoie d'ailleurs au fameux poulpe des travailleurs de la mer, de Victor Hugo.
Est-ce qu'on sait si Lautréamont avait la moindre connaissance de ça? Est-ce qu'il a eu ces idées animalières parce qu'il vivait dans un pays d'Amérique latine ou du Sud et qu'il traversait l'océan? Est-ce que ça vient de la lecture des romans ou des livres qui étaient très à la mode, des livres animaliers?
Oh non, je crois que c'est quelqu'un qui a eu une expérience de la vie en Uruguay et puis en France, mais c'est un formidable lecteur, boulimique de ce point de vue-là. Et en plus, on pense qu'il a fait des études à la fois de littérature et à la fois de sciences. Donc il connaît très bien les sciences et on ne sait pas très bien quelle était sa destinée en ce qui concerne une profession, le choix d'une profession. Donc il a une connaissance complète du monde animalier, des bêtes, et il les fait vivre. Il les fait vivre, mais selon quelque chose qu'on peut rattacher à des réalités anciennes, c'est-à-dire, par exemple, les métamorphoses d'Ovide. Vous voyez,
hein. Tout à fait.
Ça, on n'a pas insisté là-dessus, mais
non, mais tout à fait,
voilà,
bien sûr.
On pourrait.
Et il faut aussi rappeler, je l'ai dit succinctement dans l'introduction, c'est que nous avons affaire à un poète qui est mort à 24 ans. Tout ça,
oui,
ça a été écrit.
Mais ça, de ce point de vue-là, les grands poètes, les grands créateurs, en fin de compte, sont des surdoués et très vite ils s'expriment, très vite ils ont leur génie. Hein.
Nous allons maintenant entendre Pierre Brasseur lisant un extrait du quatrième des chants de Maldoror, cet extrait du disque Poème grinçant en 1968.
Sous mon aisselle gauche, une famille de crapauds a pris résidence. Et quand l'un d'eux remue, il me fait des chatouilles. Prenez garde qu'il ne s'en échappe un. Hein, et ne vienne gratter avec sa bouche le dedans de votre oreille. Il serait ensuite capable d'entrer dans votre cerveau. Sous mon aisselle droite, il y a un caméléon qui leur fait une chasse perpétuelle. Afin de ne pas mourir de faim, il faut que chacun vive. Mais quand un parti déjoue complètement les ruses de l'autre, il ne trouve rien de mieux que de ne pas se gêner et suce la graisse délicate qui couvre mes côtes. J'y suis habitué. Une vipère méchante a dévoré ma verge et a pris sa place. Elle m'a rendu eunuque, cette infâme. Oh, si j'avais pu me défendre avec mes bras paralysés. Mais je crois plutôt qu'ils se sont changés en bûches.
Jean-Luc Steinmetz, nous avons évoqué très brièvement dans la première partie de ce personnage en personne une partie importante de Mal d'Aurore qui est sa sexualité. Et si on ne connaît pas la sexualité de Lautré Hamon lui-même, sinon qu'on se doute ou qu'on pense qu'il a eu des attirances pour des camarades de lycée, Mal d'Aurore, lui, a des expériences très positives et en particulier, la plus importante peut-être, est avec un certain Mervyn.
Oui. Cette scène avec Mervyn, qui est la scène du chant 6, c'est celle qui a déjà été posée dès le chant premier avec un certain Édouard. C'est-à-dire qu'il y a eu, il y a comme une espèce de scène primitive, mais c'est pas un rapport avec le père ou la mère, là c'est un rapport avec les parents et puis Mal d'Aurore et puis un jeune homme. Et donc, il y revient. C'est déjà posé dans le chant premier et ça se retrouve très déployé, comme une vérité, n'est-ce pas?
Qu'est-ce qui s'est passé avec Édouard?
Qu'est-ce qui s'est passé avec Édouard? Eh bien, une scène de séduction, uniquement par la voix. Et la voix promet un certain nombre de choses à Édouard, à ce jeune homme. Et il sent qu'il va être saisi par cette voix. Et c'est bien entendu Mal d'Aurore qui est derrière. Et il va être emporté par cette voix, emporté par Mal d'Aurore, et sa mère également va mourir. Alors tout cela s'inspire, évidemment, comme toujours Lautré Hamon, il y a un fond culturel très important, ça s'inspire du Roi des Aulnes, de Goethe. Mais il y a là une scène familiale, évidemment, très importante. Et on peut penser que, étant donné qu'un personnage qui fait partie de la vie de Ducasse et qui s'appelait Dazé, oui, a été nommé dans un premier temps,
puis effacé ensuite.
On peut penser qu'il y a ce personnage, qu'il y a eu un rapport avec ce personnage plus tard. Pas,
hein. Je dois faire une précision d'accent, moi qui suis né dans son pays, c'est que Dazé se dit Dazette.
Dazette.
Dazette, avec l'accent fermé.
Ah oui.
Alors, revenons à des choses plus sérieuses et avec ce Mervyn. Ce Mervyn est un jeune Anglais, n'est-ce pas?
C'est ça.
Alors donc, ce Mervyn suscite le désir de Mal d'Aurore, on peut dire ça comme ça?
Oui, c'est ça.
Et donc, qu'est-ce qui se passe?
Mervyn est suivi d'une façon très précise, topographiquement, par Mal d'Aurore. Et finalement, il y a une scène familiale où on sent que Mal d'Aurore est tout proche. Et Mervyn a été, en quelque sorte, déjà ensorcelé par Mal d'Aurore. Et puis Mal d'Aurore lui envoie une lettre, il y a des échanges de lettres. Il lui donne un rendez-vous sur le pont du Carrousel. Et ce rendez-vous va aboutir à une espèce de meurtre de...
Un meurtre,
voilà.
Il l'enferme dans un sac.
Il l'enferme dans un sac qui va être trouvé par des chiffonniers ensuite. C'est une histoire à la rocambole, comme d'ailleurs le dit Lautré Hamon, puisque à ce moment-là, il veut montrer dans Mal d'Aurore un poétique rocambole, n'est-ce pas?
Alors, sauf erreur, vous me corrigerez si je me trompe, c'est que Mal d'Aurore enferme Mervyn dans un sac et ne le tue pas lui-même, il le donne à un boucher en lui disant qu'il y a un chien enragé à l'intérieur.
C'est compliqué. Ça, hein, c'est compliqué. Et après, les bouchers sauvent le personnage. Bon, il y a des quantités d'interventions d'adjuvants à ce moment-là. Mais pour finir, Mal d'Aurore va être... Enfin, Mal d'Aurore va sacrifier, si on peut dire, Mervyn, et le projeter du haut de la colonne Vendôme sur le Panthéon. Sur le dôme du Panthéon. Ce qui est un trajet qui a interpellé, bien sûr, des quantités de personnes. Parce qu'on ne peut pas imaginer que ce soit un trajet sans cause. Symbolique.
Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a dans les chants de Maldoror d'autres élans vers des adolescents idéalisés, parce qu'on a parlé d'Edouard et de Mervyn, mais il y a aussi un certain Mario et Holzer. Et ce qui est frappant, c'est que s'en suivent toujours des violences. C'est un peu comme si Maldoror ne voulait pas reconnaître ses penchants.
C'est une forme, je ne sais pas s'il faut parler de sadomasochisme, mais la violence est toujours là. Et que si l'on réfléchit d'un point de vue psychanalytique sur la chose, on ne peut pas imaginer l'acte sexuel sans violence, vous savez. Enfin, je dis vous savez.
Moi, je ne sais rien.
Je suis persuadé qu'il y a là une violence qui est simplement la violence que suppose la rencontre de deux corps qui s'admettent plus ou moins. Simplement, l'homosexualité, très présente là, et elle a tendance elle a été gommée au profit d'une réflexion formelle sur le texte, n'est-ce pas, que moi je regrette beaucoup. Mais vous savez, quand on lit les chants de Maldoror, et là je vous sais gré d'attirer l'attention sur Maldoror, on les lit plutôt d'un point de vue du travail formel, du point de vue théorique et tout ça. On ne voit pas ce héros. Parce qu'évidemment, ce héros, on n'a pas pu le dire tout à l'heure, on n'a pas pu le décrire. N'empêche qu'il est là formidablement, n'est-ce pas?
Bien sûr, il est
Arma virumque cano, disait Virgile, n'est-ce pas? Je chante les faits d'armes et le héros, ben, notre héros. Oui.
Il est là et on oublie très souvent, à mon sens, quand on parle des chants de Maldoror, la part aussi d'amusement qu'a dû éprouver Lautréamont, Hamon, comme tout grand écrivain, à composer son ouvrage, parce qu'il y a aussi, d'abord, il y a de vraies aventures, ce personnage existe, il y a aussi une part de parodie, on sent très fort une parodie du roman populaire à certains moments, et on comprend d'ailleurs en le lisant comment les surréalistes ont pu l'aimer. Oui. On pense, moi j'ai pensé à Death Note qui adorait Fantomas, enfin
bien
il
sûr.
Y a des uns, n'est-ce pas?
Oui. Oui, oui.
Au-delà des aventures de Maldoror, de sa sexualité, est-ce que vous ne diriez pas, Jean-Luc Steinmetz, que Maldoror a ceci de très 19e siècle, que c'est un génie qui se débat dans la vie pratique?
Génie, vous avez là une opinion qui rejoint celle d'Artaud, qui a écrit l'un des plus beaux textes sur Lautréamont, Lettre à Lautréamont. Et c'est vrai que il y a dans l'expression de Ducasse quelque chose qui s'oppose à l'humanité moyenne et qui veut dire cette espèce de force de surpassement, de dépassement qu'il y a chez l'homme, n'est-ce pas ? L'homme passe infiniment l'homme. Et alors, évidemment, à ce moment-là, on s'en prend au dieu tyran de la religion chrétienne. Parce que, évidemment, la lutte contre Dieu est considérable. Simplement, il faut voir qu'il y a la suite des poésies. Et ça, la suite des poésies, c'est comme pour Nietzsche. Nietzsche qui découvre Bizet et
oui,
refuse Wagner, n'est-ce pas? Voilà.
Bien sûr, mais enfin, il n'en reste pas moins que les chants de Maldoror sont une œuvre close, fermée, et qu'il me semblerait que ce serait presque abusif d'importer dans Maldoror ce que Lautréamont a écrit ensuite dans les poésies.
Enfin, ben voilà. C'est le lieu d'embarras de ce texte, et qui fait que il nous interroge toujours d'un point de vue éthique et du point de vue fictionnel. Bon.
Je voudrais dire que nous avons beaucoup parlé de la cruauté de Maldoror, de son opposition à Dieu. Nous n'avons pas assez insisté sur le passage de la lutte avec Dieu, qui est traité de manière très ricanante. Mais c'est aussi quelqu'un qui est blessé, me semble-t-il, dont le ricanement montre une blessure à cause de la vulgarité ambiante. Il dit au chant 2, il est honteux de marcher parmi des êtres qui ne lui ressemblent pas.
Oui.
Est-ce que ça n'est pas un grand délicat, au fond?
Ah, je n'avais pas vu sous ce genre, n'est-ce pas? Et pas vu comme ça, non. C'est une créature qui nous échappe un peu, n'est-ce pas? Elle est intermédiaire, et en ce sens, elle est plus proche du génie dont vous parliez tout à l'heure que de la...
Que de la simple humanité.
L'existence humaine.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire que dans l'existence humaine, il y a toujours un germe qui fait qu'elle peut se dépasser infiniment. du côté du mal, du côté du bien. Les fleurs du mal sont là. Quand Baudelaire parle de l'infini, c'est l'infini du mal ou l'infini du bien. Baudelaire catholique.
Bien sûr. Il faut dire que les chants de Maldoror, si je ne me trompe pas, sont les chants d'un homme mourant. Et que nous devrions peut-être considérer ces chants comme ses dernières paroles, car il est dit au premier chant, dans une parenthèse, c'est très très rapide, mais enfin il dit « j'écris ceci sur mon lit de mort ».
Oui, ça interpelle toujours ceux qui lisent le texte. Simplement, on peut dire que pour chaque strophe, il y a des mises en scène qui sont un peu différentes. Hein. Alors, il est sûr que, par exemple, le chant 6 est conclusif.
Oui.
Conclusif d'une action. Quant à parler, j'écris ça sur mon lit de mort, n'est-ce pas un topos, ça pourrait être un topos romantique.
Oui.
Pas, hein. Évidemment, c'est quand même quelqu'un qui a 22 ans et qui écrit ça. Devons-nous le croire? Est-ce qu'il est atteint par une maladie terrible? Il ne semblerait pas. Mais en tout cas, il se plaît à se montrer, comment dire, sujet de la folie. C'est-à-dire, il y a deux choses qui excèdent la raison constamment dans les chants de Maldoror. C'est la folie et puis le rêve. Très souvent, nous passons d'un endroit à un autre sans que nous puissions véritablement nous repérer. Et la folie, il est possible qu'il l'ait ressentie à certains moments. En tout cas, on va pas dire que c'est un borderline, mais il est sur une certaine limite.
Oui.
Et il connaît bien cette limite, n'est-ce pas ?
Oui, et c'est un metteur en scène de lui-même en permanence, au fond, parce
oui.
que, à un moment, la lettre qu'il écrit à Mervyn, avant de le convoquer, il la signe de 3 étoiles et d'un filet de sang, donc on sent un désir d'esthétisme très poussé, et chaque fois, il y a cet élément de mise en scène de lui-même.
Oui, quand il écrit, de toute façon, il y a une précision, une acribie, qui est tout à fait extraordinaire, n'est-ce pas ? Et qui vient d'une imagination exacerbée, n'est-ce pas ? Que nous ne pouvons pas avoir et qui nous frappe étonnamment, soit dans la représentation des scènes extérieures, soit dans l'écriture elle-même. L'écriture elle-même, à un moment, ne cesse de tourner sur elle-même et de s'inquiéter, à la limite de se meurtrir. Donc évidemment, c'est un écrivain, est-ce qu'il est pur ou impur ? En tout cas, il voit le texte en train de se faire. Et en même temps, quand il voit le texte en train de se faire, il nous éloigne un peu de certaines actions fondamentales qu'il voudrait faire passer et que nous aimons et qui sont à mettre au compte de Maldoror, mais qu'aujourd'hui, nous avons un peu tendance à oublier au nom de ces théories, au nom de cette réflexion constante sur le texte qui n'a pu que prospérer à partir des poésies, justement. Elles sont toujours là, comme une espèce de hantise.
Jean-Luc Steinmetz, que vous a appris le personnage de Maldoror ?
Eh bien, écoutez, moi j'ai lu ça avec une certaine innocence quand j'avais 16 ans, dans une édition qui venait de paraître chez José Corti. Et évidemment, la révolte était là, toute présente. Et puis après, au fur et à mesure de mon travail d'universitaire, puis de poète, je me suis aperçu de l'importance du détournement dans son écriture et de l'utilisation de nouveaux textes et comme quoi Maldoror aussi, c'était l'aboutissement fabuleux au sens fort du terme de toute une littérature précédente. La dernière épopée et le roman chant sixième en train de se mettre en place et déjà en train de se défaire.
C'était Personnage en personne, le 77e. La semaine prochaine, je parlerai du personnage du roi à New York, créé par Charlie Chaplin.
Comme si j'étais assis là-haut, paradis.
Réalisation Clotilde Pivin, attaché de production Pascaline de Bonnet, prise de son Manuel Couturier.
De ma vie, le paradis.
Dans un instant, une saison au théâtre. Avec Joël Gaillot.
C'était un grand jeudi. Tous les jours.